Salut à tous, au sommaire dans Rétrovision, nous aurons Space Quest 6, Airball, Biomechanical Toy, Rick Dangerous, Poker and Blackjack, Quackshot, Space Pirate et la démo signée du groupe Lemon a pour nom Enos. Bienvenue sur Rétrovision. Super content de vous retrouver pour une nouvelle saison pixelisée 100% rétro gaming avec des génériques modifiés. Il y aura toujours les mêmes rubriques que la saison précédente, comme par exemple les musiques disques Amiga, des reportages, des flippers qui cette fois-ci passent au nombre de 3, des introductions de jeux et la démo Amiga qui clôture l'émission. Et pour commencer dans la bonne humeur, on décolle dans l'espace avec les aventures hilarantes du plus célèbre balayeur intergalactique, Roger Wilco, dans Space Quest 6 sur PC CD-ROM. Ce sixième et dernier opus de la série des Space Quest est sorti en 1995. Il est l'œuvre de Mark Crowe et Scott Murphy.
Bonjour, monsieur le videur. Il s'en fout, comme les autres. Tu commences à t'habituer, hein?
C'est aussi le seul qui a été réalisé sur support CD-ROM, bénéficiant de graphismes SVGA et d'un doublage vocal de qualité.
Balayeur Wilco, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas autorisé à prendre cette navette! Faites demi-tour immédiatement et...
Va te faire voir, commandeur de mes deux.
Qu'est-ce que vous venez de dire, Wilco?
Nous avons un léger problème de transmission, chef.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, Space Quest est un savoureux mélange qui parodie la science-fiction et les space opéras en incluant historiquement quelques grandes sociétés multinationales.
Ne la touche pas, c'est une vieille folle. Sers-toi plutôt de la cloche.
Votre numéro correspond bien à celui qui est indiqué sur le compteur?
Non, je ne crois pas, mais...
Je suis désolé, monsieur. Ce système binaire ne connaît pas le mot « mais ». Soit vous avez le bon numéro, soit vous ne l'avez pas. Vous devez donc attendre l'appel de votre numéro. Merci beaucoup. J'ai un travail très important à terminer.
Cette saga hilarante est fortement teintée d'humour idiot et de situations loufoques. Roger Wilco se fait passer pour un éternel perdant, opprimé, mais qui finit toujours en héros malgré lui, en sauvant l'univers à chaque épisode. Le brave Roger Wilco est accusé à tort d'avoir enfreint les lois intergalactiques après avoir été jugé par la Confédération Starcon, malgré son triomphe dans Space Quest 5. C'est d'ailleurs un peu toujours la même trame à chaque nouvelle série. Il sera donc condamné à retrouver son bon vieux balai pour retourner à son vieux travail, à savoir laver les toilettes. Mais ces malheureux événements ne sont que le début de nouveaux ennuis qui vont une fois de plus emmener Roger à sauver la galaxie.
Salut beau gosse. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de main, non? Je peux faire quelque chose?
Oui. Merci de vous être arrêté.
Il semblerait qu'une fois de plus, le vice est plus profitable que les affaires sérieuses.
Ce point and click est tout ce qu'il y a de plus classique. L'interface est super simple et la prise en main demande que quelques secondes. Vous pouvez régler différentes options comme l'affichage des sous-titres, la vitesse ou le son. Certaines énigmes sont carrément tordues, mais il faudra bien chercher et vous vous trouverez souvent dans pas mal de situations cocasses. Mais c'est ce qui fait le charme de ce point and click.
On va voir si cette saleté fonctionne.
Dans l'ensemble, ce sixième opus est très plaisant à jouer. On retrouve bien l'ambiance délirante des Space Quest et le style dessin animé colle parfaitement pour notre plus grand bonheur.
Hé, voilà ton poisson!
Commandeur Kilbasa, vous allez penser que je suis fou, mais je viens de recevoir un SOS sur mon compost. Et il venait de Stellar.
Wilco, vous avez encore sniffé du décapant liquide?
Airball, sorti en 1987 par Microdeal, est un jeu plutôt original puisque vous dirigez une bulle à travers un labyrinthe tout en 3D isométrique. Un vilain sorcier a transformé le héros en une bulle relativement fragile et celui-ci demande d'aller chercher divers objets éparpillés dans son immense château parsemé de pièges et d'obstacles qui sont le plus souvent piquants et tranchants. Votre bulle aura tendance à se dégonfler au bout d'un moment, ce qui est normal. Heureusement, il y a des pompes à air pour vous donner un peu de tonus. Mais attention à ne pas surgonfler la bulle, sinon c'est l'éclatement. Airball nécessite un bon sens de l'orientation ainsi qu'une bonne mémoire visuelle. La maniabilité n'est pas évidente au début à cause de la 3D isométrique, mais aussi fait au bout de 20 minutes. Airball laissa quand même son empreinte dans les souvenirs des joueurs de l'époque, sûrement grâce à ses graphismes et son originalité. La version Atari propose 280 pièces à traverser, alors que sur Amiga, une version étendue de 670 pièces fut commercialisée. En 2008, Airball a été développé sur Nintendo NES. Évidemment, c'est du homebrew, avec de petites nouveautés, comme par exemple avoir le choix du niveau de difficulté. Il y a aussi une version non officielle sur Game Boy Advance, disponible en téléchargement sur FoxySoft avec un S.com. Premier jeu d'arcade de la saison 3 de Retrovision, nous avons sélectionné Biomechanical Toy, un magnifique run and gun datant de 1995. Ici, vous incarnez un jouet biomécanique nommé Ingooze et vous devez parcourir 6 niveaux afin d'éliminer le méchant Scrubby qui a dérobé un pendule magique garant de la prospérité dans le monde des jouets. Thank you. L'apparence générale de Biomechanical Toys nous fait penser à un jeu micro dopé aux amphétamines, avec des graphismes somptueux typés bande dessinée européenne, des multitudes de bonus et les écrans interniveaux symbolisés avec une grosse main. Il s'agit bien d'un jeu occidental développé par The Software, un label espagnol composé de Ricardo Puerto, le programmeur, et Raúl López, le designer. C'est à ces deux personnages que l'on doit aussi Whiskey Wood, sorti en 1992, d'abord sur Amiga, puis sur ST, PC et Mega Drive. Et on reconnaît bien cette Spanish Touch qui mélange le style manga japonais et leur propre influence européenne. La jouabilité est excellente, la progression se fait sans trop de difficultés, même contre les boss de fin de niveau. En effet, si vous perdez une vie ou un continu contre eux, leur barre d'énergie ne sera pas remontée au maximum, mais juste de 30% à peu près, ce qui vous donne un avantage certain pour en venir à bout. Biomechanical Toy propose un tas de bonnes idées et des passages amusants comme le combat avec un virus informatique ou contre une pièce de jeu d'échecs dans un ring de boxe. Les ambiances sont joliment variées avec des décors reprenant des thèmes comme les plateaux d'échecs, la tour du dragon, la forêt, le western ou la jungle. Dommage que ce bon jeu d'arcade ne fût pas adapté sur les consoles de salon, même si en 1995, les jeux en 2D commençaient à se faire rares. Ah, Rick Dangerous sur Atari ST, voilà un jeu très accrocheur, brillamment réalisé par Simon Phipps de chez Core Design en 1989. Personnage charismatique, Rick Dangerous était parfois considéré comme la mascotte des micro-ordinateurs à la fin des années 80. Vous incarnez Mr. Dangerous, un explorateur influencé par Indiana Jones, muni d'un revolver, d'une bonne demi-douzaine de dynamite et d'un grand bâton. L'action prend place dans un temple inca, en Égypte, et dans une base nazie où il faudra sauver des soldats prisonniers. Le but du jeu est de traverser tous ces endroits en évitant de nombreux pièges, ainsi que les gardiens qui protègent les trésors. La réalisation est plus que correcte, malgré une palette de couleurs limitée et une résolution moyenne. La maniabilité de Rick est bonne, mais il y aura de nombreux passages où les sauts se feront au pixel près. Et certains passages sont à apprendre par cœur. Heureusement, une petite musique vous annoncera souvent un checkpoint, c'est-à-dire que si vous perdez plus loin, vous reprendrez à cet endroit-là. Les musiques sont inexistantes, sans doute pour créer une ambiance ou pour laisser le joueur se concentrer. Personne n'a oublié les hurlements exacerbés qui accompagnent la mort d'un personnage, que ce soit pour Rick ou ses ennemis. Rick Dangerous est un jeu bien marrant bénéficiant d'une bonne réalisation qui a marqué toute une génération, surtout ceux qui avaient des micro-ordinateurs. Le design en super deformed, c'est-à-dire un petit corps avec une grosse tête, y est aussi pour beaucoup. Il a aussi permis à Core Design de se faire connaître du grand public avant de réaliser Tomb Raider 7 années plus tard.
Les paroles, c'est pas un problème, la chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait.
Voici Las Vegas Poker and Blackjack, sorti en 1979 sur Intellivision et édité par Mattel Electronics. Cette cartouche proposait différents types de poker, comme le 7 Card Stud ou le 5 Card Draw. On pouvait y jouer à deux ou seul contre le croupier. L'interface était très simple, avec trois tableurs contenant les cartes. Mais il fallait surtout bien connaître les règles du jeu, car tout était écrit en anglais. Cette cartouche a fait le bonheur des adultes, accros aux jeux de cartes, et en plus on pouvait jouer sans miser de l'argent réel. Tout ceci était vraiment nouveau à la fin des années 70, début 80. « Encore un jeu vidéo inspiré par Indiana Jones, peut-être même un peu plus que Rick Dangerous, le célèbre Donald Duck, qui se sent l'âme d'un explorateur dans cette aventure intitulée tout bêtement Quake Shot, sorti en 1991 sur Mega Drive. C'est la version japonaise que l'on vous présente avec un nom légèrement plus compliqué, Guruziya Unoiu. Après avoir fouillé la bibliothèque d'oncle Picsou, Donald met la main sur une carte au trésor, réveillant ainsi sa forte cupidité. La première chose qui attire notre attention, c'est le type d'armement que l'on dispose, puisque notre palmipède s'amuse à balancer des ventouses jaunes en forme de déboucheur. Ces ventouses auront pour effet de paralyser les ennemis. Il suffit ensuite de les dépasser avant qu'ils ne reviennent à eux. Il y a aussi d'autres types de ventouses, comme les rouges, qui restent collées au mur, les vertes, où l'on peut rester accroché à toutes sortes de créatures volantes, les piments rouges, qui auront pour effet de rendre Donald invincible durant quelques secondes, n'oublions pas le lanceur de maïs soufflé et les bulles explosives. Petite subtilité dans Quake Shot, il faudra souvent appeler le biplan, piloté par les trois neveux, afin d'utiliser ou de récupérer des objets dans les endroits appropriés. La jouabilité est correcte, mais le manque de souplesse du personnage se fait parfois sentir, dans un style qui tient plus du jeu d'action que de la plateforme. Les musiques, quant à elles, sont bien travaillées et s'adaptent aux lieux parcourus par de splendides mélodies. Quake Shot est un jeu d'action qui a bien vieilli. On reprend plaisir à traverser les différents stages, aux décors variés. Une superbe cartouche Mega Drive à essayer pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas. Première sélection flipper de la saison 3 avec pour débuter Back to the Future, sorti en 1990. Cette table est l'adaptation du film culte Retour vers le futur. On peut juste voir le personnage joué par Christopher Lloyd, le Doc, mais pas McFly, interprété par Michael J. Fox, qui n'avait pas donné son autorisation. On se demande d'ailleurs vraiment pourquoi. Il y a plusieurs références au film tout au long des parties et les deux objectifs majeurs sont la multiball et la séquence Unlimited Million. Sorti en 1967 par le constructeur Williams, Magic City est un flipper où le principe est d'allumer les lettres qui composent les mots Magic City ainsi que les étoiles sur le centre de la table. Les dessins du flipper représentent La Salle Street à Chicago et le Space Needle de Seattle. Vraiment un très joli flipper si vous aimez le style des années 60. Monster Batch de Williams datant de 1999 est sans aucun doute l'un de mes flippers préférés avec les contes de la crypte et Medieval Madness. L'objectif est de collecter les instruments de musique appartenant aux six différents monstres cultes comme Frankenstein, Dracula ou le loup-garou. Le point fort de cette table, c'est lorsque vous devez viser les cibles mobiles qui représentent les différents monstres. Les animations sur l'écran d'affichage sont ce qui se faisait de mieux, vraiment impressionnant. Monster Bash est un excellent flipper avec une difficulté super bien dosée qui ravira toute la famille et les joueurs les plus récalcitrants. Allez, pour tous ceux ou celles qui ont aimé Mad Dog McCry chroniqué dans le volume 7 de la saison 2, on remet ça avec un autre jeu de tir signé American Lost Game, Space Pirate, sorti en 1995. Après avoir incarné un policier dans Crime Patrol, un détective des années 30 dans Johnny Rock et un cowboy dans Mad Dog, nous voici plongés au fin fond de l'espace, ayant pour mission de réduire à néant les plans machiavéliques du capitaine Talon et de sa horde de pirates. Celui-ci a capturé un vaisseau plein d'innocents colonialistes qu'il faudra délivrer tout au long du parcours. Le principe du jeu est exactement le même que les précédents American Laser Game. Il faut tirer sur les ennemis au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Attention de ne pas tirer sur les otages, sinon il vous en coûtera une vie. On peut soit utiliser la souris ou un pistolet optique Act Labs conçu exprès pour les jeux de tir sur PC. Petite nouveauté par rapport aux autres laser games du même genre, c'est que vous devez récupérer des cristaux d'énergie afin d'augmenter la puissance de votre super canon laser, qui est la seule arme capable d'anéantir le méchant capitaine Talon. And your friend, choose gold, then left for your journey's end. Il y a aussi des bonus cachés tout au long du parcours. Ceux-ci ne sont pas indispensables, mais c'est toujours sympa d'en trouver quelques-uns. Si vous êtes un inconditionnel de ce type de laser game, Space Pirate devrait vous réjouir. Pour les autres, vous aurez l'impression que c'est toujours la même chose d'un jeu à l'autre. Bienvenue dans le monde des salles d'arcade des années 2000 avec ce premier reportage de la saison 3 et des bornes toujours plus réalistes avec des graphismes HD de toute beauté comme par exemple Blazing Angel, Squadron of World War II, un simulateur de vol qui vous met aux commandes d'un avion de la Seconde Guerre mondiale. Avec un écran LCD 42 pouces haute définition et un son 5.1 Dolby Surround, la sensation d'immersion est poussée très très loin. Ici, nous avons l'adaptation arcade de Guitar Hero, que tout le monde connaît, véritable phénomène de société. Voilà, on s'attaque à du lourd avec Primeval Hunt, un jeu de tir à la première personne développé par Sega en 2008. Ce que nous voyons ici est la version Deluxe avec un écran HD de 62 pouces. La version standard est munie d'un écran 29 pouces beaucoup plus petit. Cette borne dispose d'un écran tactile qui vous permet d'indiquer la direction que vous désirez prendre, la cible à abattre ou l'angle de vue. Sans oublier le lance-roquettes, bien utile en situation de danger. Yu Suzuki et son équipe sont de retour avec Sega Race TV. Le cockpit est très confortable avec de nombreux éclairages, comme des néons rouges et bleus, donnant un effet sympathique, avec un thème très américanisé. La borne dispose de pédales, d'un siège ajustable, d'un levier de vitesse et d'un bouton boost pour donner de grands coups d'accélération. Avant de démarrer la course, vous devrez choisir entre différentes voitures, les vitesses automatiques ou manuelles et le circuit. J'essaie tant bien que mal de vous faire voir le début d'une course de Sega Race TV, mais c'est très difficile de conduire avec une seule main, l'autre tenant évidemment la caméra vidéo. En espérant que vous avez pris plaisir à regarder cette émission, on se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode 2 de la saison 3.